Réunion 27 décembre 2022, la deuxième épître de Pierre, Fountain Valley. Nous prions que tu bénisses tous les saints qui sont physiquement présents ou par Zoom. Amen. Merci pour ta parole et tous les avertissements dans 2 Pierre. Nous voulons entendre et aussi pratiquer ta parole. Révèle-la nous fraîchement. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour connaître la volonté de notre Père. Nourris tous les saints par l'Esprit. Amen. Seigneur, nous te remercions pour toute ta parole dans cette conférence. Nous voulons gagner encore en zèle. Vraiment, nous voulons répondre à notre élection et notre appel. Nous voulons entrer vraiment dans ton royaume. Parle-nous, Seigneur. Nous t'ouvrons notre cœur en entier. Donne-nous une attitude d'être des personnes qui pratiquent ta parole. Amen. Vraiment. Ta parole est vraiment vivante et efficace en nous. Nous voulons entendre. Nous voulons prendre ta parole et tes avertissements sérieusement. Nous ne voulons pas être des auditeurs passifs, mais nous voulons pleinement collaborer avec toi. En particulier avec ton retour qui est si proche. Tu nous as destinés à tellement et tu as fait déjà tellement pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis. Accorde-nous un cœur qui cherche. Amen. On peut lire 2 Pierre, chapitre 3. Versets 14 à 18. 2 Pierre 3, 14 à 18. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. L'avant-dernière réunion de la conférence. C'est magnifique de voir comme le Seigneur est patient et miséricordieux avec nous. Et tout ce dont on a besoin pour atteindre le but, il nous le dit encore. Et il veut vraiment qu'on atteigne ce but, qu'on y arrive. Le problème, ce n'est pas que le Seigneur n'a pas fait assez. Le problème, c'est nous-mêmes. On a entendu tellement. Au travers de toutes ces années, on sait tellement. Et je ne crois pas que ce que je partage ce matin n'est quoi que ce soit, soit quoi que ce soit de nouveau. Je crois que beaucoup d'entre nous, on veut entendre de nouvelles choses. On veut de nouvelles interprétations. de nouveaux avertissements. Mais le problème, c'est que beaucoup de choses que nous savons déjà, on ne les met pas en pratique. Ou on n'est pas rendu parfait dans ces choses. On aime juste les entendre, mais elles n'ont pas produit tellement de changements en nous. C'est ce que le Seigneur a besoin de nous rappeler. J'espère que la parole dans 2 Pierre peut vraiment avoir une impression profonde en chacun de nous pour opérer un véritable changement en chacun. On ne peut pas continuer sur la même voie où nous avons été pendant si longtemps. Et j'aime beaucoup comment cette section commence. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, qu'est-ce que nous attendons? Dans les premiers versets, il dit que nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et je crois que si on fait attention, on doit avoir remarqué qu'il y a tellement d'injustices dans ce monde. Il n'y a pas de justice. Tout est juste sans dessus dessous. La situation dans le monde est de pire en pire. Et beaucoup de personnes, la manière dont elles répondent à ça, elles contestent. Elles deviennent des activistes. Elles font quelque chose. Mais en fait, il n'y a aucun moyen pour nous de changer ce monde. Les gens croient qu'ils peuvent changer le monde. Ils essayent de changer le monde. Mais il n'y a aucun moyen de le faire parce qu'il est tellement corrompu. Il est corrompu depuis son cœur. Et ça vient du méchant. Tout ce qui pourrait être fait, c'est d'en être débarrassé parce qu'il sera remplacé. Comme il dit là au chapitre 3, il doit être dissous, jugé. Et que faut-il pour cela? Il va être brûlé. Et le remplacement, ça va être de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est notre seule espérance. C'est le roi de gloire qui doit régner. C'est la seule solution, le seul espoir que nous pouvons avoir. Quand on regarde à la situation du monde, ne soyons pas découragés. Nous avons de l'espoir parce que le Seigneur va tout résoudre. Il est la solution. Et c'est pourquoi Pierre dit qu'on regarde en avant pour ces choses. Ça doit être notre espérance. Les gens attendent beaucoup de choses. Ils attendent leurs prochaines vacances. Mais toutes ces choses vont passer. Mais ça, c'est éternel. C'est vraiment ce qu'on a besoin de garder devant nos yeux. Je ne peux pas voir comment qui que ce soit peut se sentir déprimé ou découragé quand on a une telle espérance. Et il y aura alors de la justice. À cause de cela, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. C'est pas juste que le monde va changer, mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous devons changer. C'est vraiment relié à nous. Ce qui se passe est vraiment relié à nous. Le Seigneur va pas juste revenir pour régner seul sur cette terre, mais il veut être assis sur le trône et avec nous. Régner. Mais il y a une condition. Il dit, nous devons être sans tache et irréprochables. Parce que c'est un royaume de justice. Comment est-ce que ceux qui règnent pourraient être injustes? Si c'est un royaume de justice et irréprochable, alors comment les gens qui règnent dessus pourraient être dignes de reproche? Et là, on voit vraiment comme Pierre amène ce point. Il montre vraiment que tout a été accompli, on a juste à collaborer avec le Seigneur. Il nous dit, soyez zélés pour collaborer à ces choses. Ça signifie qu'un jour, on va être inspecté. Et il s'attend à ce que l'on passe ce test. Le Seigneur va chercher cela. Comme si tu vas chercher un fruit au magasin. Tu cherches une orange, tu vas choisir celle qui n'est pas abîmée. Alors, que va faire le Seigneur quand il nous inspecte? Il veut que l'on soit sans tache et sans reproche. Est-ce qu'il y aura des secrets, des choses cachées dans les ténèbres? Que va-t-il trouver? Je ne sais pas pour vous, mais parfois, je considère comment ça va être de se tenir devant le Seigneur, devant le trône du jugement, et c'est plutôt effrayant. Rien que cette expérience de venir ici, c'était un peu inquiétant. Je ne sais pas si qui que ce soit, aussi sur Zoom, réalise cela. Mais peut-être certains d'entre vous, vous avez voulu venir pour entrer aux États-Unis, il faut être pleinement vacciné. Et souvent, ils vont poser la question. Êtes-vous vacciné? Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas entrer. Et cette fois, nous avons décidé d'essayer. On s'est dit, bon, on va essayer de conduire au travers de la frontière. Et on a espéré qu'ils ne nous posent pas la question, parce que plus de 90 ou 90% des gens qui passent la frontière, ils sont vaccinés, donc c'est comme ça, c'est vraiment, tu arrives à la frontière et le douanier te pose des questions. Et là, on y est allé en espérant qu'il ne pose pas la question. Qu'il demande « Où allez-vous ?» Il nous a demandé « Où allez-vous ? Quand est-ce que vous rentrez ?» Et on a vraiment dit au Seigneur, « Seigneur, pourvu qu'il ne nous pose pas la question. » Mais juste ces questions. Il nous a demandé « Pourquoi allez-vous aux États-Unis ? Est-ce que vous allez pour y faire quelque chose que vous n'êtes pas censé faire ? Est-ce que vous y apportez de la drogue ? Vous venez pour faire quelque chose d'illégal ? Est-ce que vous amenez de la drogue ou des armes ?» Juste de traverser une frontière, une frontière internationale. Mais j'étais déjà tellement nerveux. Et quand il nous a dit « c'est bon, vous pouvez passer », on était si heureux. On a passé l'inspection. Mais imagine, tu es devant le juge de cet univers et il t'inspecte. Il va poser plus que juste trois questions. Il va vraiment vérifier chaque chose, chaque mot qu'on a prononcé, chaque pensée que l'on a eue. Il va vraiment vérifier. Et il va vérifier si on est vraiment digne, si c'est vraiment de la qualité, comme le fruit qu'on achète au magasin. Et ici, il dit, pour être trouvé dans la paix. 14. Afin d'être trouvé dans la paix. Ça veut dire que si on est prêt, on aura la paix et confiance en ce jugement. On sera si sûr. Pourquoi? Parce que pendant ce temps maintenant, nous aurons été fidèles pour suivre on aura eu ce zèle pour chasser toute ténèbre en nous, pour nous discipliner, pour nous entraîner. Dans 1 Jean 4, il dit: Verset 17. L'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parce que tel il est, tel nous devons être aussi dans ce monde, dans sa pureté. On doit vraiment pratiquer de marcher là-dedans aujourd'hui. Si on marche vraiment par Christ, si on a cet amour pour lui et qu'on grandit et cet amour pour lui, alors certainement, quand nous tenons devant lui, ça ne va pas être comme d'être jugé par un étranger. Mais on le connaît, ça va être notre bien-aimé. On découvrira un visage familier. On aura cette confiance quand on se retrouvera devant lui. On ne sait pas ce qu'il va nous demander, comme en passant la frontière pour nous. On ne savait pas à quoi s'attendre, alors on était nerveux. Ou est-ce qu'ils vont nous demander ceci ou cela? Mais là, parce qu'on le connaît déjà, on connaît déjà Christ, alors on pourrait trouver par lui, dans la confiance, on saura qu'on va passer le test. Parce qu'on aura grandi avec lui au travers de toutes ces années. Et ça ne vient pas juste par le fait d'être assis dans une réunion et d'écouter. Mais c'est vraiment notre marche quotidienne. Avec zèle pour le suivre. Cette petite phrase a tellement de signification afin d'être trouvée par lui, dans la paix, sans tâche et irréprochable. Et on attend vraiment cela. Si aujourd'hui on n'attend pas cela, on n'attend pas de rencontrer notre juge, alors qui attend de rencontrer son juge? Mais là, parce qu'on l'aime. Et c'est pour ça dans 1 Jean 4, il relie l'amour au jugement. Qui a jamais relié l'amour avec le jugement? Si tu dois aller au tribunal parce que tu as fait une erreur, alors tu as peur du juge. Mais là, on a envie d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Il est notre juge, il est le roi, mais il est aussi notre bien-aimé. Donc, d'où vient cette confiance? Elle ne vient pas automatiquement. Elle vient de cette croissance dans la connaissance de Christ. Et verset 15, il dit: « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Le Seigneur est vraiment patient. Patient dans la souffrance, même en anglais. Ça m'a rappelé Exode 24, verset 6, Exode 24, 6. C'est pas ce verset. C'est un de ceux-là, mais il en cherche un autre. Dans Néhémie. Néhémie 9. Néhémie 9, 17. Il, en parlant des Israélites, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur coup dans leur rébellion. Ils se donnèrent un chef pour retourner à la servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. 18. Même quand ils firent un veau en métal fondu et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. » Dans ton immense miséricorde, 19, tu ne les abandonnas pas au désert et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Et le Seigneur n'a jamais abandonné les Israélites, même s'ils étaient tellement rebelles. Il les a quand même amenés jusqu'au but. Il a gardé sa promesse. Il est si patient. Ça, c'est vraiment parce qu'on est tellement rebelle et désobéissant. C'est vraiment notre salut. Que le Seigneur soit tellement patient envers nous. Même quand nous sommes rebelles, quand nous sommes infidèles, lui, il est encore fidèle pour nous. Continue dans 2 Pierre, verset 15, il dit « Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Non seulement Pierre, mais aussi Paul parle de cela. Beaucoup de rappels de cela. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dans les personnes ignorantes et mal à faire tordre le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Là, je crois que durant les années, on a rencontré, pas juste d'autres, mais nous-mêmes, ignorant ne signifie pas qu'on n'ait pas suivi une école biblique, mais ignorant signifie qu'on a un manque de compréhension spirituelle. Les gens aiment attraper la parole qui leur plaît, qui correspond à leur cœur. Et ça cause la destruction. C'est très facile pour les gens d'être instables. Des fois, on est de bonne humeur, des fois de mauvaise. Des fois, dans notre vie, ça va bien, d'autres fois pas. Et puis, on a juste des hauts et des bas avec le Seigneur. Quand ça va bien, on suit le Seigneur. Dès qu'il y a des problèmes, on met la faute sur le Seigneur. Mais on n'est pas stable. Et quand on n'est pas stable, c'est très facile. Peut-être qu'on a entendu quelque chose dans la parole. Peut-être un frère ou une sœur a partagé quelque chose, mais on n'a pas aimé ce qu'on a entendu. Et on va changer la signification. On va dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est dire que tu refuses ce que le Seigneur te dit. Et on va débattre en disant « Non, je crois que ça ne signifie pas ça, ça veut dire autre chose. » Mais alors, on modifie la parole. Si on n'est pas attentif et que nous-mêmes, on n'est pas stable, on peut aussi mal interpréter la parole et la tordre. Les gens aiment entendre ce qu'ils aiment. Des paroles faciles. Mais des fois, la parole nous convainc. On croit que quelqu'un a parlé de telle manière exprès contre moi. Et l'ennemi peut utiliser cela pour nous condamner. Et on va volontairement oublier. On essaye d'ignorer. On n'a pas envie d'entendre cela. Et ça nous amène à notre propre destruction. Et à nouveau, c'est un problème. Il y a tellement de fois où le Seigneur nous parle d'être zélé, de persévérer, de continuer. Mais c'est tellement facile pour nous à cause des difficultés, des situations dans notre vie. Et on devient instable. Et c'est un signe de manque de maturité. Si on est encore si facilement affecté par les circonstances et les situations, même nos propres émotions, c'est un signe que nous manquons de maturité. Il y a une parabole qu'on connaît bien où le Seigneur parle de bâtir sur le roc. C'est ce dont on a besoin de stabilité, on a besoin d'avoir cette stabilité dans notre marche avec le Seigneur, d'être pas facilement affecté par les circonstances autour de nous, par les gens autour de nous, par nos propres pensées et craintes. C'est très dangereux si on n'est pas attentif. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, est-ce qu'il n'y a pas tellement de choses qu'on sait déjà? Je ne crois pas que parmi nous, il y ait beaucoup de nouveaux chrétiens. Je crois que la plupart d'entre nous, on a été chrétiens depuis des années, même des décennies. On sait tellement de choses. Et les choses dont on parle aujourd'hui, et tout ce dont on a parlé dans cette conférence, elles ne sont pas nouvelles. On sait ces choses. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Même le Seigneur a dit ça dans Matthieu 24, 25. Matthieu 24, verset 25. Voici, je vous l'avais annoncé d'avance. Si on rate l'inspection à la fin, on ne pourra pas dire « Seigneur, je ne le savais pas. Seigneur, je n'étais pas au courant. » On ne pourra pas dire une telle chose. « Oh Seigneur, j'ai... tel frère ou telle sœur m'a mal conduit. » Non, tu as la parole, tu as l'esprit. Tu as la même foi. Tu as la même tout. Ce que nous avons tous, on a tous reçu la même chose. On ne pourra jamais dire « je n'étais pas au courant ». Voici, parce que vous savez ces choses en anglais, dans ce verset. Ne tombons pas endormis. Amen. Pour ne pas déchoir de notre fermeté, comme il dit dans le verset. On a vu aller et venir tellement de gens dans la vie de l'Église durant toutes ces années. Même des personnes qui nous semblaient tellement fortes dans le Seigneur. Et quelque chose est arrivé et elles ont juste disparu. On a tendance à croire « Ah, mais je suis encore là, je vais encore aux réunions, donc je ne dois pas avoir si tort. » Mais ça me rappelle que si je ne suis pas en train de grandir, c'est aussi tomber, déchoir de ma fermeté. Ce n'est pas juste revenir en arrière. Si j'arrête simplement de croître et que je regarde en arrière, quelques mois avant, quelques années avant, et que je vois que j'en suis encore aux mêmes choses, je me mets toujours en colère pour les mêmes choses, je me débat toujours avec les mêmes péchés. Il y a toujours les mêmes choses que je n'arrive pas à vaincre. J'aime toujours le monde de la même manière. Alors je n'ai pas fait le moindre progrès. C'est pas une bonne chose. C'est sûr, peut-être que je viens aux réunions, aux conférences. Mais si je ne fais pas des progrès, alors il y a une erreur. Il y a un problème. Donc ne dis pas. Au moins, je n'ai pas disparu comme les autres. Ça, c'est un faux sens de sécurité. Parce que si je continue de la même manière, je ne passerai quand même pas cette inspection dans le futur, même si je suis restée là. Je suis au moins exposée à un meilleur environnement que ceux qui ont abandonné, mais je ne suis pas dans une meilleure condition qu'eux. Si je m'arrête, en fait, je tombe. Si j'ai arrêté de courir, alors je suis en train de tomber. C'est pas acceptable pour le Seigneur à la fin des temps. C'est pour ça qu'il nous dit « Soyez avertis ». Ça veut dire que je dois constamment vérifier mes progrès. J'ai besoin de savoir où j'en suis. J'ai besoin de savoir où j'en suis par rapport au fait d'être sans tâche et irréprochable. Et il dit là encore, verset 17, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, si je rencontre une personne impie et que cette personne m'entraîne, je vais pas volontairement suivre un impie. Mais si je suis quelqu'un, ça signifie que je pense que cette personne est bien. Je vais pas suivre une personne qui est de manière évidente mauvaise. Mais en fait, ceux qui suivent les impies, c'est qu'en fait, ils ont perdu la vision et ils ont été perdus à cause de la convoitise de la chair. Ils ont été trompés. Ils ont cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Ah, la vie de l'église était trop restrictive. Je veux faire ce que j'aime. Ce monde méchant utilise vraiment l'impiété. C'est pas juste les meurtriers et les menteurs. Mais le Seigneur dit, ne soyez pas attachés. Ils ne veulent pas être attachés. Ils ont l'impression que c'est trop limitant de suivre le Seigneur. Ma chair veut faire ça, mais je n'ai pas la liberté de suivre ce que ma chair veut faire. Je ne peux pas faire ce que mes amis font. Mes amis, et peu importe qui, ils suivent leur carrière, ils ont beaucoup d'argent, ils ont du fun, ils s'amusent. Leurs enfants ont tellement d'autres enfants avec qui s'amuser et tout ça. Et moi, je suis dans la vie de l'église. Je peux pas faire toutes ces choses amusantes. Et puis, je regarde juste et je convoite juste le fait d'être sur le pâturage plus vert à côté. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a déjà, on est déjà tombé, on est déjà déchu. Mais quelqu'un qui est vraiment établi et en croissance dans le Seigneur, alors va discerner les ténèbres pour ce qu'elles sont. On va voir les œuvres des méchants. Mais si on commence à chuter, alors le monde va nous paraître de plus en plus vert et on va être guidé par ça. Et ce monde méchant, impie. L'égarement des impies, ça ne veut pas dire des personnes mauvaises, disons visiblement mauvaises, mais c'est des personnes qui vont nous donner le sentiment qu'il y a plus de liberté si on ne suit pas cette voie. Oh, ton chemin, il est trop étroit, j'ai envie de me détendre. Alors que se passe-t-il? Tu vas déchoir de ta fermeté et être égaré. Et là, tu vas dire, ah enfin, je peux profiter de la vie. Enfin, je suis libre. Et ça, on doit faire attention. C'est pour ça qu'il dit, soyez attentifs. Tenez-vous sur vos gardes. Mais, verset 18, au contraire, on doit croître dans la connaissance et la connaissance, la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Et ça ne vient pas juste par le fait d'être assis dans une réunion, mais ça vient de notre marche quotidienne avec lui, de le chercher tous les jours. C'est vraiment ce qui va nous protéger, nous garder de déchoir. Et alors on n'aura pas à s'inquiéter du jugement. Comme John l'a partagé, on pourra vraiment être trouvé dans la paix avec le Seigneur. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, vraiment. Mais on doit juste être très prudent. Être attentif à notre propre condition. N'est-ce pas, louer le Seigneur, le Seigneur continue de nous révéler ces choses et de les décrire ces paroles dans nos cœurs et que l'Esprit nous guide. Il a raté le verset 18. J'ai pensé quelque chose de semblable. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Oui, c'est vrai. Ça parle de soi-même. Une des choses que je voulais dire à ce sujet, c'est que la croissance, elle vient avec la vie. La croissance, elle ne peut pas être séparée de la vie. C'est pas devenir plus intelligent dans la Bible. Mais ça, c'est en lien avec la vie. Ça veut dire manger et boire. C'est le fait de passer du temps avec le Seigneur. Et cette connaissance, c'est pas savoir à son sujet, mais c'est de le connaître personnellement. Et c'est aussi ce que nous dit Colossiens 1. Paul prie. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, en croissant par la connaissance de Dieu. Il n'y a pas de le fait de se tenir et rester simplement au même endroit, mais il n'y a pas de soustraction, de division, c'est vraiment à chaque fois multiplié ou additionné. Il y a vraiment une croissance dans le Seigneur. C'est sans fin. On ne peut jamais finir de le connaître. Je ne comprends pas comment qui que ce soit peut juste se dire « Ah, c'est bon. C'est bon, je les connais, c'est bon. Je sais. » Mais en fait, plus on veut, plus on le connaît, si on n'a pas cette attitude, alors ça signifie qu'on n'est pas en train de croître. On est juste pris dans la connaissance qu'on a eue il y a longtemps. J'espère que le Seigneur va vraiment remplir toutes ces choses dans nos vies. Amen. La grâce du Seigneur, plus on va l'expérimenter, plus on le connaît, plus ça va nous paraître simple, plus on reste collé à lui, plus il va nous aider dans notre marche. Et ça va devenir de plus en plus facile. Peut-être que la situation va devenir plus difficile, mais on le connaît tellement plus. Quand j'étais plus jeune, beaucoup de choses m'amenaient à m'inquiéter et être anxieux. Mais par les années, j'ai vu comme le Seigneur m'a guidée. Et quand je suis passée par des situations même encore plus dures, je me suis sentie bien meilleure, même si la situation était plus difficile. J'étais moins inquiet. Et parfois, j'étais même pas inquiet, comparé à des années avant. Parce que je savais de manière certaine que le Seigneur est fidèle et que je pouvais lui faire confiance. La grâce augmente. Amen. Les épreuves peuvent augmenter, mais la grâce augmente encore plus, elle surabonde. Donc à la fin, on va juste conclure. Comme Pierre le fait, à lui seul la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. On ne peut pas dire une telle chose si ce n'est par l'expérience. C'est pourquoi la vie chrétienne est vraiment une expérience. Amen. On ne peut pas dire à lui soit la gloire maintenant et en Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité, sans l'expérience. Ça, c'est vraiment le résultat de l'expérience. Amen.